Association Vignes et Vignerons du Trièves. Donc, l'association a été créée en 2008 par son président actuel qui s'appelle Gilles Barbe, qui est un enfant de Mince. Il faut quand même dire pourquoi elle a été créée. Donc, en deux mots, tout simplement parce que Gilles est possesseur d'une vigne et qu'il s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il voulait honorablement, légalement, juridiquement, convenablement travailler dans sa vigne, c'est-à-dire acheter des plants, planter, etc., il se heurtait à d'énormes problèmes donc administratifs, puisque en France, le postulat, c'est qu'on n'a pas le droit de planter une vigne. C'est-à-dire qu'une treille, n'importe quoi, n'est pas un droit, c'est une dérogation, c'est une tolérance, hein, même une vigne devant une maison. Donc la plantation de la vigne en France est quelque chose de très contrôlé. Donc en partant de là, l'association a été créée en 2008. Gilles s'est entouré de gens, et Gilles a eu à ce niveau-là un nez extraordinaire de s'entourer de gens, hommes, femmes, de toute origine, de toute provenance, donc et finalement des gens de compétences très complémentaires, très très complémentaires. Et donc c'est parti. Donc actuellement, de mémoire, je crois qu'il y a 15 membres qui se réunissent à peu près tous les 2 mois, hein, pour discuter, pour remettre à plat certaines décisions. Bon, certaines décisions purement administratives, simples, c'est entre Gilles. Alors Gilles, après, avec chaque intervenant. Et puis quand ce sont des choix, comme par exemple quand on a refait la façade, qu'il a fallu demander l'accord de la mairie, etc., bon, c'est le genre de projet qui passe devant le CA, des choix, l'acceptation d'une grosse dépense notamment pour la vente en ligne, etc.
Ah,
Le
d'accord.
bureau, le CA, c'est 15 personnes. Après, peut-être les adhérents, bon, à peu près aujourd'hui, en sachant qu'il y a les adhérents de la première heure, qui, donc, depuis 2008, reconduisent leur adhésion, ceux qui ont déménagé, qui sont plus là, ceux qui ne peuvent plus, parce que financièrement, on a eu des adhérents qui avaient adhéré en couple, qui maintenant adhèrent uniquement ou au nom de madame ou donc au nom de monsieur. L'adhésion, c'est 15 euros. Mais même 15 euros par an, financièrement, on comprend tout à fait qu'il y a des personnes qui peuvent plus. Donc voilà, donc on est à plus de 400 adhérents, hein, et c'est là où on est relativement fort entre guillemets, c'est que bah, quand on arrive avec le listing de 400 personnes à une administration quelconque, bon, on voit qu'on n'est pas qu'on représente un certain poids en tout cas.
Trois salariés,
3 salariés. Alors
équivalent temps plein.
moi-même donc à temps plein, enfin 30 heures par semaine, mais à temps plein, et 2 et demi-temps. Alors pour l'instant, ce sont des postes qui sont des postes, bon, pour faire court, pendant la jungle des subventions, des postes subventionnés. Moi, mon poste, a priori, j'ai envie de dire, hein, bon, donc on verra, mais a priori, donc moi j'ai été aidé par une subvention senior Pôle emploi, parce que j'ai plus de 50 ans. Donc je suis passé par la case chômage, donc subvention senior Pôle emploi, j'ai une première subvention d'un an, une deuxième de 6 mois, là on est sur la troisième de 6 mois et la dernière, donc qui s'arrête fin mars de l'année prochaine. Donc on espère a priori que mon poste devrait être pérennisé. Alors pérennisé comme il est là maintenant, plus, moins, on ne sait pas trop encore.
Dernier volet de notre rencontre avec l'association Vignes et Vignerons du Trièves, Langrangeau, en quelque sorte le QG de l'association, en tout cas la partie la plus visible pour les personnes extérieures à l'association, et même peut-être pour la majorité des membres. Nous allons le savoir dans un instant, puisque nous nous trouvons aujourd'hui dans ce lieu, sur la place de la Halle à Mince, avec Éric Chollat, le troisième salarié de l'association qui fait vivre ce lieu. Bonjour Éric.
Bonjour.
Que se passe-t-il à Langrangeau?
Qu'est-ce qui se passe à Langrangeau? Langrangeau, eh bien, c'est d'abord avant tout le siège de l'association. Donc, c'est une boutique où nous essayons avant tout de lui donner la face d'un lieu d'échange, d'un lieu de rencontre, avec des expositions, avec plusieurs activités. Enfin, on en reparlera plus tard, mais plusieurs corps d'un autre arc. Donc, mais c'est avant tout le siège de l'association qui a pignon sur rue. Un côté caviste, un côté boutique.
Langrangeau, c'est le lieu de Vignes et Vignerons du Trièves. Donc j'imagine que l'on doit pouvoir trouver une cave à Langrangeau.
Oui, bien sûr. Oui. C'est une des raisons de l'implantation du magasin, c'est qu'on a le grand bonheur d'être dans le quartier historique, dans un magasin qui a énormément de cachets et qui a au sous-sol, donc ouvert sur le magasin, une cave, une véritable cave.
Alors effectivement, là, nous sommes sur la place. On a vu sur la place avec une belle baie vitrée. Il y a également des expositions. Nous en parlerons tout à l'heure. Cette cave, est-ce qu'on peut la visiter?
Oui, bien sûr, on peut y aller. Je vous suis.
Donc voici la cave. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette cave de Langrangeau, des vignes et vignerons du Trièves?
Alors, vous la décrire. Donc, en fait, on a un gros atout dans ce magasin, c'est qu'en fait, c'était du 18e siècle jusqu'au... Enfin non, on va dire du Moyen-Âge, du 17e jusqu'au 19e, c'était autrefois le marchand de vin du Trièves. Donc, d'où l'aspect monovoûte, cette cave voûtée qui est vraiment superbe, et donc avec des rayonnages, moellons et planches de sapin, et où on met en avant... je vous raconterai plus tard éventuellement si ça vous intéresse, mais où on met en avant donc des cépages rares, des cépages oubliés de toute la région alpine. Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, etc.
Donc c'est un lieu où on peut déguster. Je vois des fûts avec des verres, des petits plateaux.
Oui, alors effectivement, une partie de notre activité, c'est de proposer aux gens, soit quand il y a beaucoup de monde, on ouvre toujours une bouteille ou deux, enfin le samedi, jour de marché, ou éventuellement, on organise des dégustations privées. C'est-à-dire qu'on ferme le magasin. Le magasin est à disposition, ainsi que moi-même, des gens qui sont invités. Et donc, par cercle de, on va dire, une dizaine de personnes, j'essaye humblement de faire découvrir des cépages rares, des cépages oubliés. On construit une thématique selon les vœux, si les clients connaissent ou pas. Et donc on déguste ici, effectivement.
Vous avez parlé de cépages rares. Quels sont donc ces vins que l'on peut déguster? Il n'y a que des cépages rares. D'où viennent-ils?
Alors, ils viennent, comme je vous disais, de toute la région alpine. Donc, en fait, on tourne autour de l'Isère. Hein, donc, Savoie, Haute-Savoie. Après, on monte Isère, Nord-Isère, l'extrême pointe sud de la Loire. Drôme, Ardèche, Hautes-Alpes, Basses-Alpes. Donc, voilà. Donc, principalement, on tourne autour. Donc, nous, notre choix, c'était de mettre en avant des producteurs, souvent de petites superficies, qui d'une part travaille dans une démarche avec une éthique très forte, biodynamie, etc., appellation bio, ou alors donc soit il travaille avec une éthique très forte sur des cépages ordinaires, ce qui est déjà très intéressant, et ou autrement sur d'autres qui ont remis en place des cépages anciens qui existaient autrefois, qui n'existent plus. Donc d'où l'appellation de cépages rares, de cépages oubliés.
Donc c'est exactement la même démarche que ce que nous avons entendu de la bouche de Samuel Deluce, qui fait exactement ce même travail pour les vignes dans le Trièves, d'où le nom de l'association. On trouve également ces vins travaillés par Samuel Deluce et les vignes qui existent dans le Trièves, on les trouve ici également dans cette cave.
Alors oui, on les trouve ici, si ce n'est que pour l'instant, il va falloir qu'on regarde les bouteilles. Hein, depuis début novembre, donc on n'a plus le droit de commercialiser, de faire participer les adhérents sur l'acquisition de ces bouteilles. Bon, alors ce sont des lois très complexes, je vais vous assommer donc avec ça, mais en gros, nous, nos vignes, c'est ce qu'on appelle des vignes de famille, donc des vignes sur lesquelles nous n'avons aucun droit, pas de droit de production, pas de droit de plantation, pas de droit de commercialisation. On ne fonctionnait uniquement sur des modes dérogatoires, acceptés par les autorités pour les contributions indirectes. Donc la plantation, Samuel vous en reparlera, donc parce que c'est son domaine. Bon, pour l'instant, on ne revient pas sur la dérogation pour arriver donc à planter. Par contre, ce qui me touche de plus près, c'était la commercialisation des vins que nous produisions, donc effectivement les cépages rares qu'on a replantés dans le cadre de conservatoires. Et donc jusqu'à présent, on pouvait demander aux adhérents, uniquement adhérents de l'association, une participation financière s'ils voulaient goûter, voire acquérir du vin. Bon, donc là, depuis début novembre, nous ne pouvons plus. Donc on ne peut plus, ça c'est fini.
Vous avez bon espoir tout de même de pouvoir reprendre cette activité, pouvoir reproposer à la vente ces vins prochainement?
Oui, absolument. Enfin, je pense que maintenant on est un peu victime de notre succès. On a pris une ampleur telle que il était temps de ces modes dérogatoires, de les régulariser en fait, hein, et de ne plus fonctionner sur des modes dérogatoires, en tout cas pour la commercialisation, mais fonctionner sur un mode beaucoup plus légal. Donc bon, on travaille avec les douanes, les autorités. Alors ce qui est frustrant, c'est que pour l'instant, les fêtes vont arriver, que on voulait peut-être vendre du vin du Trièves. pour l'instant, tout est arrêté.
Alors ça, c'est pour l'aspect de la cave, le stockage, la vente de ces cépages rares. Est-ce qu'on ne vend que du vin à Langrangeau ?
On ne vend pas que du vin. Alors au sous-sol, ici où on est au frais, bonne température, puisque c'est une vraie cave, on vend effectivement ici que du vin. Par contre, on peut peut-être remonter, donc à l'étage, à la boutique, on vend d'autres choses.
Donc là, nous sommes dans la partie plutôt orientée boutique de
Donc là, on est au rez-de-chaussée, on est effectivement face à la halle, dans le quartier historique. Donc, dans le magasin qui était la volonté de tous les membres du CA de l'association, donc c'était que ce lieu, le siège de l'association, soit aussi un lieu d'échange, un lieu à la fois commercial, un lieu d'échange. Donc, on vend des produits, on fait de l'artisanat local. Donc, on met un point d'honneur à faire travailler des gens du Trièves. Hein, donc, on travaille avec deux potiers, on travaille avec un vannier. Donc, tous les produits qu'on a là sont faits en plus exclusivement pour nous, histoire de ne pas faire de tort à d'éventuels d'autres points de vente sur Mince. Pour nous, c'était très important. Et donc, toute cette activité d'artisanat est faite uniquement sur le Trièves, parce que c'était important pour nous de diffuser ça.
De la poterie, de la vannerie, je vois aussi de la farine.
Voilà, bah là c'est pareil. Hein. On avait décidé que on a la chance d'avoir des minotiers sur Mince, entre autres le moulin de Chardère. Un pur hasard, il se trouve que le moulin de Chardère n'avait aucun dépôt dans aucune boutique du cœur du bourg à Mince. Donc du coup, bah, c'était l'opportunité d'être les dépositaires de la farine du moulin de Chardère. Le but, la finalité, bon, c'est quand même dans l'air du temps, c'est d'éviter que quelqu'un prenne sa voiture, parce que Chardère, même si c'est pas loin, c'est à 2,5 km, faire 5 km pour aller chercher un sac de 3 kg de farine, on trouvait ça un petit peu bête. Donc voilà.
Vous êtes le dépôt de vente dans le centre de Mince.
Voilà, c'est ça. Au même prix de vente qu'au moulin de Chardère. Pour nous, c'est très important.
Pour rien gâcher, en plus, il y a une très belle esthétique qui a été travaillée hein, pour rester un peu dans l'ambiance de la cave, même en haut, des poutres apparentes. On sent le cachet du lieu. Et en même temps, des expositions. Il y a régulièrement des expositions à Langrangeau, souvent des peintres, il me semble. Et actuellement, c'est une exposition de la Maison du Mont-Aiguille.
Tout à fait. Donc, en gros, côté exposition, donc on travaille effectivement avec des artistes amateurs, mais bon, qui commencent à être connus et reconnus. Donc, le gros de l'activité artiste pur, c'est de juin à septembre. Là, cette année, on en reparlera après, mais on a quelqu'un qui vient exposer pendant le mois de décembre, et donc un artiste. Et autrement, les autres mois de l'année, eh bien, on essaye de, pour que nos murs vivent, de se faire prêter des expositions itinérantes. Donc là, on a depuis fin octobre une exposition itinérante de la Maison du Mont-Aiguille à Chichiliane qui explique les sortes d'arbres et de végétaux qu'on trouve sur le Trièves. Donc accrochés avec du bois, on a essayé de faire quelque chose de très sympa.
Alors là, on a fait le tour, je pense, de l'activité qu'on peut trouver à Langrangeau. Vous, Éric Chollat, quel est votre rôle dans l'association ?
Mon rôle, il est à la fois simple et très compliqué. En fait, donc je suis responsable de la boutique, donc du siège. Officiellement, bon, je m'occupe donc de tout ce qui est expo. Puis après, il y a toute la communication pour les expos qui est quand même assez longue, assez compliquée. Après, bon, je m'occupe du lien avec donc tous les producteurs de vin que nous représentons à la cave. Bon, c'est des gens avec lesquels il faut suivre les stocks, les commandes. Souvent, c'est moi, comme ils sont pas très loin, c'est moi qui vais chercher les livraisons de vin plutôt que de se faire livrer, d'avoir des frais énormes des frais de livraison. Derrière tout ça, ça me permet, enfin j'insiste un petit peu là-dessus parce que pour nous c'est très important, mettre en avant tous ces producteurs qu'on a en bas, ces cépages rares, ces cépages oubliés, sont des gens qui souvent sont tout seuls dans leur vigne et on est un peu, enfin une des vocations de la SOS c'est ça, c'est d'être un peu les ambassadeurs de tous ces gens-là qui ont une éthique, qui travaillent différemment. Et moi mon rôle c'est aussi d'aller, plutôt que de me faire livrer, donc effectivement, c'est d'aller chez ces producteurs, histoire de m'imprégner de l'ambiance, de leur chai, de leur vigne, la façon dont ils travaillent, pour pouvoir après ne pas avoir un rôle uniquement de tiroir-caisse quand on vend leur vin, mais pouvoir parler de l'homme, de la femme qui est derrière chaque bouteille.
Donc une activité commerciale avec une dimension humaine importante.
Tout à fait.
Et vous proposez en même temps pas que de la vente sur place, mais également de la vente en ligne.
Voilà, alors ça, bon, ça fait des mois qu'on est sur la brèche. Et là, je suis très fier parce que ça a été un gros travail d'équipe. Donc, c'est effectivement en place depuis ce week-end. Donc là, depuis ce week-end, effectivement, on peut acheter effectivement chez nous sur Internet tous les produits. Alors, sauf, vous avez bien entendu tout à l'heure, pour l'instant, sauf les vins du Trièves. Mais bon, tous les cépages rares, les cépages oubliés, on a... Sur 75 références, on en a à peu près une soixantaine qui sont disponibles. Alors c'est très complexe parce que c'est une gestion, c'est très complexe, mais bon. On a fait des essais comme ça, à la fois pour envoyer des colis, ça marche très bien, ça arrive pas cassé pour l'instant. On a fait des essais sur Internet, des essais blancs, voir si les commandes passaient bien. Donc avec un paiement en ligne sécurisé par PayPal, donc ça pour nous c'est très très important. Donc pour l'instant, voilà.
Références de vin en tout, 60 disponibles à la vente en ligne.
Ouais, c'est ça.
Ça, c'est l'aspect commercial, mais vous ne faites pas que de la vente. Vous avez aussi, vous, vous occupez aussi de l'aspect administratif de l'association.
Oui, alors après, bon, c'est des caractéristiques, enfin des aspects qui sont moins évidents au grand jour. Mais après, il y a tout un aspect vie d'un siège, hein, c'est-à-dire un siège social. Donc le courrier arrive, les mails arrivent. Donc il y a tout un travail administratif, mais administratif qui a des côtés quand même humains, parce que bon, des courriers, des mails, bon, ce matin encore j'ai reçu un mail de quelqu'un, je pense qu'il s'est trompé, mais qui cherchait une location. Bon, je peux pas l'envoyer paître, donc le but, c'est de répondre, et puis du coup, je parle un peu de nous, qui on est, donc ça c'est tout des petites tâches mis bout à bout qui sont pas tellement quantifiables, mais qui sont importantes. Et bon, modestement, j'ai envie de dire, maintenant, les gens savent qu'à Mince, dans le quartier historique, il y a un endroit où on peut venir, où on peut poser un panier quand on est trop chargé, etc. Vraiment le commerce de proximité.
Et puis, il y a également tous les petits coups de main que vous pouvez donner aussi sur le terrain, dans les vignes éventuellement, sur d'autres tâches.
Ouais, malheureusement, beaucoup moins que ce que je voudrais vraiment dans la réalité. Mais bon, c'est vrai que de temps en temps, quand côté des vignes, on a besoin, bon, une demi-journée, une journée, j'essaye de me dégager un petit peu. C'est pas toujours évident. Le gros problème, c'est qu'une boutique, si on veut que la boutique ait une notoriété, elle commence à l'avoir. Vous avez vu que tout à l'heure, quelqu'un est venu acheter une bouteille. Hein, donc c'est, pour nous, c'est une victoire. Ça veut dire que les gens, ils ont envie de pain, ils vont à la boulangerie. Ils ont envie de viande, ils vont à la boucherie. Ils veulent une bouteille de vin un peu particulière, ils viennent chez nous. Donc ça, on a réussi. Mais du coup, ça veut dire que si je veux réussir à ça pleinement, il faut que les horaires d'ouverture soient quand même le plus réguliers possible. Hein, donc on est ouvert du mercredi au samedi. Donc de temps en temps, je ferme une demi-journée en mettant un mot sur la vitrine, en disant je suis dans les vignes, je suis chez les fournisseurs, etc. Mais on évite quand même de trop fermer le magasin.
Il y a également un aspect communication, j'imagine, pour faire connaître ce lieu, savoir que tout un chacun peut venir acheter une bouteille chez vous. Je vois à côté un présentoir avec un journal. C'est vous qui éditez également le journal de l'association ?
Alors, pas du tout. C'est en fait Gilles Barbe, le président de l'ASSOS, qui est plutôt en charge de la rédaction, de la mise en page, etc. Mais oui, effectivement, on sort un petit journal qui s'appelle La Treille tous les 6 mois. Et qui tient lieu de journal, donc effectivement de tenir au courant des dernières nouveautés. Pour être tout à fait honnête, dans la mesure maintenant où Internet, on va dire, donc on a plus de 400 adhérents, on va dire pratiquement 80% des adhérents ont une boîte mail. Donc pour nous, c'est plus facile, plus commode et moins onéreux, ça il faut quand même le dire, d'envoyer des nouvelles par Internet, des articles, des photos, etc., etc. On communique avec, il faut toujours jongler entre essayer de faire les choses du mieux qu'on peut, mais sans dépenser des sommes folles. Donc il faut jongler un petit peu.
Tout à l'heure, vous évoquiez vos déplacements pour aller rencontrer les producteurs, entre autres. L'association travaille en réseau avec d'autres associations, d'autres producteurs. Il y a ce que l'on appelle le réseau de l'arc alpin. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est, ce réseau ?
Oui. Alors, c'est quelque chose d'un petit peu... d'un peu virtuel dans la mesure où c'est pas une véritable association, c'est simplement un regroupement de plusieurs associations dont le fil rouge est le vin, reste le vin, mais ces associations elles-mêmes ont des origines très diverses. On a un office du tourisme en Ardèche, on a deux producteurs de vin, d'ailleurs dont on représente les vins ici, un sur l'Isère, un sur l'Ardèche. Après, on a dedans une très grosse association qui s'occupe de la réhabilitation de cépages, pareil, qui ont été malmenés pendant des siècles, qui s'appellent les Coteaux du Gier. Bon. Ben voilà, donc tous ces gens-là se réunissent pour réunir leurs efforts, leur expérience, pour monter des dossiers, pour auprès des administrations pouvoir être crédible, parce que plus on est nombreux et plus on est crédible, et donc du coup pouvoir monter des dossiers pour aider des jeunes à s'implanter, à acquérir des droits de plantation, etc.
Donc c'est pour gagner en poids en fait.
Oui, absolument, parce qu'il s'avère quand on est seul dans son coin, on peine, on n'a pas le temps, on n'a pas les bons réflexes, on n'a pas les bons outils. On n'a pas les bonnes adresses, les bonnes portes auxquelles frapper. Donc, nous, ce regroupement, on se réunit toutes les 6 semaines à peu près, puis on communique beaucoup. Et on est là pour faire part de toutes nos expériences et puis de se réunir pour faire venir des grandes pointures de la région Rhône-Alpes, des politiques, des économistes, des scientifiques. On travaille beaucoup avec l'INRA de Montpellier. Et voilà. Et maintenant, on commence à avoir du poids, effectivement.
Donc, si je peux résumer, il y a 3 intérêts, en fait, à ce regroupement du réseau Arc Alpin. Il y a d'une part peser, avoir une influence plus importante pour des dossiers administratifs par rapport à des demandes, plus nombreux, plus forts, mais également aussi un échange de savoir les uns avec les autres, et puis aussi un troisième aspect qui serait la formation.
Alors la formation, je dirais pas vraiment la formation, en fait c'est simplement que maintenant on a la chance d'être connu, et du coup quand on frappe à certaines portes, les portes s'ouvrent. L'INRA, il faut savoir que c'est pour nous une administration incontournable, parce que c'est eux qui sont en France les gardiens de tous les cépages, de tous les végétaux de France. Donc à chaque fois qu'on fait une recherche sur un cépage ancien, plutôt que de partir donc à l'aveugle, l'INRA reste quand même la référence, hein. C'est quand même c'est le maître étalon. Et bon, au
donc,
début,
plutôt que de la formation, ce sont plutôt des personnes ressources pour votre travail de sauvegarde du patrimoine.
C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, au début, on a fait sourire. Maintenant, on commence à nous prendre au sérieux. Parce que visiblement, ça bouge. Visiblement, toujours pareil. On essaye de rester dans un cadre juridique qu'on nous impose à certains moments donnés le plus strict possible. Et ça, pour nous, c'est très important pour être crédible, hein, vraiment. Et puis, on est ouvert à toute suggestion qui viennent d'en haut, hein, puisque là, visiblement, les contributions indirectes nous remettent en question certaines activités. Donc, pourquoi pas, mais on reste ouvert, hein, au contraire.
Alors justement, vous disiez une rencontre à peu près toutes les 6 semaines pour ce réseau d'associations. Récemment, le 14 novembre, il y avait la dernière rencontre. Quelles sont les dernières nouvelles fraîches de ce réseau ?
Oui, effectivement. Donc le lundi 14, nous étions à Lyon. Donc le réseau avait organisé une très grosse assemblée.
14 novembre.
Le 14 novembre, pardon. Le 14 novembre, nous étions donc au siège de la région Rhône-Alpes, donc à Lyon sur la Presqu'île, et avec donc l'ensemble de tous les membres du réseau, donc de l'Arc Alpin, et avec, on avait invité des gens, des politiques, des scientifiques, enfin vraiment pour nous faire connaître, pour parler des expériences des uns et des autres, pour parler des difficultés que beaucoup rencontraient, le genre de paradoxe où on vous demande, quand on s'installe, on vous demande de produire. Or, dès la première année, on sait très bien que la vigne, il lui faut au moins 3 ou 4 ans pour produire. Donc on est en plein paradoxe. On peut pas demander à un arbre de produire la première année alors qu'on sait que sa période... les premières fleurs, les premiers fruits ne produiront qu'au bout de 3-4 ans. Donc voilà, ce genre de paradoxe, mais ça avance et c'était une journée très belle, très très intéressante.
Et qu'en avez-vous retiré de cette rencontre ?
Qu'est-ce que j'en ai retiré? Alors moi personnellement, ce que j'en ai retiré, c'est que d'abord, ce qui est toujours agréable dans ces cas-là, c'est que on se rend bien compte qu'on n'est pas tout seul hein, quand on a des difficultés. C'est là l'intérêt de ce genre de réunion, c'est de se dire que des fois, on croit qu'on est tout seul dans son coin, là, au fin fond du Trièves, à le nez dans nos vignes, à se heurter des problèmes donc administratifs ou d'autres problèmes, hein, des problèmes de greffage, des problèmes plus techniques, terrain, etc. On se rend compte que, en fait, c'est toujours rassurant de se dire qu'on n'est pas tout seul. Et deuxième chose que j'en ai retiré, c'est que même si on n'est pas tout seul, après, eh ben, on se rend compte que il y a souvent des facteurs humains qui font que, à situation équivalente, les réactions en face ne sont pas toujours les mêmes. Donc, on va dire, il y a plusieurs, pour arriver à un point, bah, il n'y a pas toujours la ligne droite. Donc, nous, en ce moment, on est dans une grande courbe. Il y en a d'autres qui ont eu des cheminements beaucoup plus directs en fonction des régions. Mais enfin, bon, ça fait partie du charme, hein. Donc, d'où l'intérêt de ce genre de réunion pour, peut-être utiliser certaines expériences antérieures, les utiliser juridiquement comme cas de jurisprudence et puis peut-être, histoire de rafraîchir la mémoire à certains et certaines.
Une actualité à venir?
Actualité brillante, eh bien, je suis en train de communiquer sur la future manifestation du mois de décembre qui me tient à cœur parce que c'est quelqu'un qui, enfin l'artiste donc qui va exposer au mois de décembre, qui va, à mon avis, qui est très prometteur, très très sympa. Donc le vernissage sera le 3 décembre. Donc si des personnes veulent venir, c'est avec grand plaisir.
Quel est son nom ?
Stéphane Bonnet.
Vous serez également présent au marché de Noël ?
Oui, alors oui, activité brûlante également. Donc au mois de décembre, pour nous, bon, je vous cacherai pas que ce qui est important, c'est que commercialement, ben, il faut que ça tourne. Hein. Donc on sait juillet-août, très grosse période. Juin-septembre, bonne période. Et puis décembre, l'année passée, avait été également une bonne période. Donc on mise à nouveau sur décembre, et entre autres avec le marché de Noël. Donc j'ai participé déjà à des réunions de travail avec l'Office du tourisme, on a essayé de coordonner ça. Donc on va ouvrir, on va participer à l'activité... À l'activité commerciale, bon, visiblement, tout le monde est motivé sur Mars, donc faut rendre ça donc à l'Office du tourisme qui s'en occupe vraiment avec beaucoup de velléité.
Éric Chola, salarié de Vignes et Vignerons du Trièves, merci.